Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa paix soit sur nos vies et que ces moments que nous allons partager contribuent à ce que notre piété soit une piété qui plaise à Dieu. Vous savez qu'un des signes de la fin des temps, ça sera l'apparence de la piété. Nous allons faire une lecture. Vous saviez qu'il y a 15 jours, nous avions partagé le premier texte où Jésus utilise cette expression très sévère. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et nous avions vu que le contexte de ce premier texte, c'était la foi. Et il faut que nous ayons une foi vivante. Nous allons lire ce soir le deuxième texte où Jésus utilise cette expression. C'est dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. C'est une parabole qui aura besoin d'être expliquée. Nous allons lire la parabole et son explication. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Cette parabole est une parabole très importante, comme nous allons le voir. Mais l'explication n'est pas tout à fait saisie là-dedans. Alors au verset 36, il s'est passé quelque chose que nous devrions imiter. Regardez ce qui se passe. Alors il renvoya la foule et entra dans sa maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. » Dans le verset 42, et cette fameuse parole que Jésus utilise, et lui seul l'utilise dans tout le canon des Écritures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette expression, elle devait faire réfléchir tous les hommes. Tous les hommes, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils liraient cette parole dans la bouche de Jésus, devraient se dire, mais pourquoi cette parole est-elle si terrible? Elle n'est pas terrible cette parole? Franchement, elle est terrible cette parole. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je l'ai dit la dernière fois, elle est utilisée 7 fois. 7 fois et uniquement dans la bouche du Seigneur Jésus. Déjà ce texte nous parle de la fin du monde. La fin du monde. Vous y pensez à la fin du monde? Est-ce que vous y pensez? La Bible en parle. Donc on peut y réfléchir. Bien sûr, le monde en parle aussi, avec des faux prophètes, avec des séducteurs, mais Jésus en parle. La Bible parle de la fin du monde, il y a des choses qui nous rassurent, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, est-ce que ça vous rassure de savoir que Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Mais par exemple, dans Matthieu 24, on peut le lire, lorsque les apôtres se posent la question, ils disent mais ils ont posé une question parce qu'ils voyaient bien dans l'enseignement de Jésus que cette situation allait arriver. C'est vieux ça, vous voyez, pourtant Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Eh oui, les disciples ont posé la question « Quand est-ce que sera la fin du monde ?» On peut lire un autre texte dans 2 Pierre. C'est normal que nous nous posions ces questions, vous voyez, puisqu'elles sont là, dans la bouche des apôtres. 2 Pierre chapitre 3, il y a une importance de veiller. La Pierre dit, mais veillez, veillez, je vous avertis, veillez. De Pierre, chapitre 3, verset 4. Il y a beaucoup de chrétiens, je l'ai entendu dernièrement, un chrétien qui a dit, oh, mais on dit que Jésus va revenir, mais il peut venir dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Voyez, depuis qu'il l'a dit, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Je ne sais pas si c'est bien de parler comme ça. Regardez ce que la Bible dit, de Pierre, chapitre 3, verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Des chrétiens, hein? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par le feu. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Nous, nous attendons un programme très intéressant, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous croyez que ça va arriver, ça, que tout sera dissous, embrasé? Vous avez peut-être vu les informations à midi, vous avez vu, il y a un gars qui a réussi à filmer une petite partie du tremblement de terre qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Vous avez vu? Et quand on voit des scènes comme ça, on se dit que ça va se produire sur la surface entière de la terre. Le Seigneur nous a prévenus. La fin du monde va arriver. Cette parabole, elle nous enseigne qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu, que quelle que soit d'ailleurs la date où cela arrivera, il faut que nous soyons convaincus que bientôt Jésus reviendra nous chercher également. Oui, il y a des promesses, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il faut quand même y penser. Il y a des gens qui vivent, des gens aujourd'hui, des chrétiens qui vivent comme s'ils allaient vivre 300 ou 400 ans. C'est bien, c'est que c'est bien d'avoir des projets. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, moi, je trouve que c'est beau quand un chrétien dit, voilà, moi, j'ai un projet de me marier déjà. Est-ce que c'est un bon projet, ça? Est-ce que c'est un bon projet, hein? C'est merveilleux d'avoir des projets. Moi, je trouve que même si le Seigneur devait revenir très tôt, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Ça indique que, eh bien, nous avons un avenir et de l'espérance. Mais il ne faut pas que nous pensions qu'au projet. Il faut que nous pensions à notre âme, à notre éternité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a adressé chacune de ces paraboles. À la fin du monde, il y aura une séparation. Je ne sais pas si vous y pensez. À la fin du monde, il y aura une séparation. À la fin du monde, le bon et le mauvais. Alors, par contre, ce qu'il faut dire, dans l'Église primitive, au début de l'Église, on voit que l'Église était tellement sanctifiée que quand même un chrétien a menti à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort dans le temple. Ça fait que tout le peuple, non pas que les chrétiens, ont été saisis de crainte. Mais quand on regarde les prophéties sur la fin des temps, on voit qu'à la fin du monde, il y aura un mélange dans l'Église. D'ailleurs, on l'a lu, les mauvais et les bons seront mélangés. Dans la parabole des 10 vierges, celles qui sont prêtes et celles qui ne sont pas prêtes sont ensemble. Oui ou non? On le voit également au jugement des nations, on le voit, Jésus viendra et séparera les boucs d'avec les brebis. Il dira à ceux qui sont à sa droite, venez qui êtes bénis de mon Père, diront que ceux qui sont à sa gauche, soyez maudits, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. On voit qu'à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra, tout sera mélangé. Nous, on aimerait dire au Seigneur, mais voilà, que les bons chrétiens, ils sont dans l'Église, et que les mauvais chrétiens, ils sortent. Je ne sais pas s'il faut prier comme ça, je ne sais rien. En tous les cas, une chose est sûre, à la fin des temps, il y aura un grand, grand, grand mélange dans le royaume de Dieu. Il faut laisser, regardez, on revient à Matthieu 13. Qu'est-ce que dit Jésus ? Laissez croître ensemble. Matthieu chapitre 13, verset 30. Bon, c'est vrai que dans une église, s'il y a des pécheurs, des chrétiens qui pêchent, et que nous soyons au courant, il faut exercer une certaine discipline pour que ces personnes puissent mettre leur vie en règle. Mais on ne sait pas tout. Des fois, on apprend de ces trucs, tel chrétien qui vivait dans tel péché, bon, nous, on ne sait pas tout. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, on dit, mais vous ne saviez pas. Mais non. Mais quand on le sait, par contre, on se doit d'exercer, comme je viens de le dire, une certaine discipline. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais Matthieu 13, verset 30, tout ça c'est indiqué, ça nous parle de la fin du monde, de la fin des temps. Jésus dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Parce que des fois, vous savez, on peut se tromper. On peut voir quelqu'un qui a eu certaines faiblesses, certains manquements. C'est pas pour ça qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Et on aurait tendance parfois, nous, à être peut-être sévères avec des situations qui ne le méritent pas. Et puis il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont spirituels, et puis ils ne le sont pas du tout. Je crois que c'est au Saint-Esprit de conduire l'Église et de nous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Oui, Jésus le dit, à la fin du monde, il séparera les brebis d'avec les boucs. Il dira aux uns, venez qui êtes bénis de mon Père. Heureux celui qui entendra ça. Et il dira à certains, retirez-vous de moi, maudit. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on entendra une de ces deux phrases. Alors les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. On l'a lu au verset 36, ils n'ont pas compris cette parabole. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous comprenez tout quand vous lisez la parole de Dieu ? Même moi encore, je vous assure qu'il y a des textes. La semaine dernière, on m'a demandé, j'étais à Manosque, on m'a demandé de faire une étude sur la vie intime du couple. Et je me suis dit, et la Bible en parle. Il faut que je prenne dans la Bible tout ce qu'elle enseigne. Et je suis parti dans le Cantique des Cantiques qu'on peut lire au premier degré par rapport à la vie intime du couple. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses extraordinaires qu'on aura certainement l'occasion de partager ensemble. Mais on ne comprend pas tout. Et ce qu'on devrait faire, c'est exactement comme les apôtres. Mais Seigneur, explique-moi. On peut prier le Seigneur qui nous explique ? Est-ce que le Seigneur peut nous éclairer ? Est-ce que quand on lit la Bible, Seigneur, mais je vais lire ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux, que je comprenne. Quelqu'un qui est dans le péché, un chrétien, est-ce que Dieu ne va pas l'éclairer ? Et voyez les apôtres, ils ne se sont pas contentés de la prédication de Jésus. Ils sont entrés dans la maison et ils ont dit à Jésus, explique-nous la parabole. On peut dire, Seigneur, mais montre-moi où j'en suis. Explique-moi, Seigneur, quelle est ma vie avec toi. Oui, je suis un chrétien. Oui, je suis peut-être baptisé. Oui, je prends le pain et le vin le dimanche matin. Mais où j'en suis vraiment de ma piété? Où j'en suis vraiment de ma communion avec toi? Comme on l'a vu il y a 15 jours par rapport à la foi, là, c'est pas la foi le contexte. On l'a lu ensemble. Le contexte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, c'est au verset 41, au cas où vous n'y avez pas fait attention. Et il dit que celui qui a des oreilles entende, parce que des fois Dieu nous parle mais on n'entend pas. On n'entend pas. Combien de pécheurs entendent à chaque réunion d'évangélisation, repentez-vous. Vous leur posez la question, mais c'est quoi la repentance? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas des oreilles, mais ils auraient des oreilles physiques, mais ils n'ont pas d'oreilles spirituelles. Parce que les oreilles physiques, j'espère que vous en avez tous. Mais les oreilles spirituelles, c'est une autre affaire d'entendre vraiment ce que Dieu a à nous dire. Donc, le contexte de cette affaire, il est au verset 41, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son scandale tous les scandales, Matthieu 13, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Et après, au verset 43, il est parlé des justes. Donc, le contexte de cet nouvel enseignement sur les pleurs et les grincements de dents, c'est par rapport à ceux qui commettent des scandales. Et on peut scandaliser les gens. Est-ce que vous le savez que Jésus parle des scandales? Vous savez, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Ils s'éloignent de Dieu tout seuls. Ils n'aiment plus le Seigneur. Ils préfèrent le monde. Ils préfèrent le péché, les plaisirs du péché. La Bible parle qu'il y a des gens qui ont trouvé du plaisir dans le péché. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Des fois, on se dit, mais pourquoi elle est rétrogradée? Mais c'est pas compliqué. Parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Il y a des gens, ils sont séduits par le diable, j'en conviens. Mais il y a des gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière. ils s'éloignent volontairement de Dieu. Mais les scandales, c'est une autre affaire. Ce sont les gens qui, à cause de notre mauvais témoignage, nous les éloignons de Dieu. Regardez avec moi dans Matthieu, gardez la page, mais dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 18, si je ne m'abuse. Matthieu chapitre 18, Jésus parle, il parle de l'importance de bénir les enfants, de ressembler aux enfants. Puis après, il ajoute ceci. Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, donc vous voyez, c'est par rapport à des nouveaux chrétiens, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel, etc., etc. Il parle du feu éternel par rapport aux chrétiens qui, par leur comportement, rendent mauvais témoignages. Je vous donne un exemple. Vous apprenez que, je ne sais pas, que je vais en boîte de nuit. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Est-ce que c'est un bon témoignage, ça? Quelqu'un qui vient juste de se convertir, il peut dire, ah bon, il va danser. Est-ce que c'est pas scandaleux? Alors on peut prendre tous certains comportements que certains chrétiens s'autorisent avec des versets arrangés à leur sauce, comme c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voyez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voyez, ils prennent certaines parties de certains versets pour justifier certaines choses qu'ils ne devraient pas faire. Combien de fois des jeunes m'ont dit « Ah, monsieur Gaud, je m'en vais à Paris, on va boire un jus de fruits là-bas sur la terrasse d'un café. Vous voulez pas venir ?» Non, j'ai pas été. Parce que je sais que si des chrétiens... Bon, alors que, c'est pas interdit, ça m'est déjà arrivé quand je pars en vacances de m'arrêter sur une terrasse de café, boire une limonade, quelque chose. Mais voyez, je crois que ça pourrait être une pierre d'achoppement. Pour des jeunes, ils disent « Ah, mais il veut lui va à la terrasse d'un café. » Mais il y a des gens, ils en profiteraient pour après... vivre dans cette façon-là. Et on pourrait multiplier les exemples. Le scandale, c'est un mauvais témoignage qui éloigne les gens de Dieu. Parce que, oui, les gens, on peut dire, ouais, mais les gens, ils sont responsables. Mais quand même, le Seigneur, dans ce texte, nous montre qu'il faut veiller les uns sur les autres. Vous vous rappelez celui qui a dit, suis-je le gardien de mon frère? De leur dire, c'est son affaire, c'est son problème. Ça n'a pas très bien fini pour lui. Donc, le problème, c'est les scandales. Et les iniquités. Et quand Jésus dit dans ce texte, oui, que celui qui a des oreilles entende, tout ça vous l'entendez. Est-ce que c'est important pour vous le témoignage que vous rendez auprès des autres? Ou est-ce que vous dites, moi les autres, ça m'est égal? Oui, mais il faut que vous puissiez répondre. Est-ce que votre témoignage est important pour vous? Est-ce que, oh moi, ils pensent ce qu'ils voudront, moi je fais ce que je veux. Si vous parlez comme ça, vous êtes léger avec Dieu. Mais je l'entends des fois ça. Moi, les autres, j'en ai rien à faire. Eh bien, voyez, c'est pas bien. C'est comme ça déjà qu'on commence à scandaliser les gens. Je crois qu'un chrétien, il a le souci de rendre un bon témoignage et de ne pas être un objet de scandale pour les autres. En tous les cas, un comportement scandaleux éloignera les gens du Seigneur. Et ce n'est pas ce que nous voulons quand les gens se convertissent. Nous ne voulons pas qu'ils abandonnent Dieu. Nous ne voulons pas les éloigner de Dieu. Nous voulons, au contraire, qu'ils se rapprochent de plus en plus du Seigneur. Et la légèreté, vous savez, dans la Bible, quand j'utilise le mot léger, je pense à ce roi qui faisait de sa vie ce qu'il voulait et qui un jour a vu sur le mur de sa maison, de sa salle à manger, alors qu'il faisait la fête, des mots qui ont été écrits. Il a demandé l'explication. Et l'explication, c'était « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'on dit non, moi je fais comme... C'est de la légèreté. Et les gens scandaleux, c'est les gens qui prennent la parole de Dieu à la légère. Et à cause de cela, bien sûr, à leur tour, ils deviennent légers. Les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors il y a quelques textes, on peut les lire. Dans Matthieu chapitre 7, il est parlé dans le sermon sur la montagne, justement de ceux, vous avez vu, Jésus va séparer les iniques des justes. Les iniques, ce sont ceux qui pratiquent le péché délibérément. Dans le royaume, Donc, je ne parle pas des pécheurs. Là, on parle des impies, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Alors Jésus l'explique bien, c'est la fin du sermon sur la montagne, Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Rien que cette parole, moi je me souviens la première fois où je l'ai lue, j'ai dit « mais c'est pas possible ». J'ai de suite compris que beaucoup de chrétiens n'entreraient pas dans le royaume des cieux. Alors il faut lire l'explication. « Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Pour vous, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui chasse des démons, il est spirituel ? C'est pas une question piège, c'est pas du tout mon but. Normalement, c'est une bénédiction, ça. Lorsque quelqu'un reçoit le don de chasser des démons, par la prière, tout ça. Le don de guérir des malades, le don de faire des miracles, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un exerce un don qu'il obéit à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et nous, on s'imagine que parce que quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, il obéit à Dieu. Mais non, c'est pas parce que je joue du piano que j'obéis à Dieu. C'est pas parce que je prêche que j'obéis à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec le don, ça a à voir avec le fruit. Un arbre, on ne le reconnaît pas au don. Un arbre, on le reconnaît au fruit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, « Mais Seigneur, Seigneur, tu te rends compte ce que j'ai fait pour toi ? Je priais pour les malades et ils étaient guéris. Je priais pour les malades et ils étaient bénis. » Jésus dira, qu'est-ce qu'il ajoute ? Verset 23, « Alors, je leur dirai ouvertement. » Ça sera révélé. Ce mot « ouvertement » est d'une richesse extraordinaire. On ne pourra plus faire la comédie. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont spirituels parce qu'ils ont des dons. Mais ce n'est pas écrit dans 1 Corinthiens 13, « J'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. » Vous voyez, si j'ai pas l'amour. Donc, il faut faire la différence entre les dons spirituels que Dieu accorde à certains serviteurs, à certaines servantes, à certains chrétiens, etc., pour que son œuvre soit manifestée, et puis le fruit. Le fruit, je leur dirai ouvertement, c'est pas, nous on ne sait pas. Nous, des fois, on peut voir quelqu'un qui prêche bien, quelqu'un qui fait quelque chose, on dit non, mais celui-là, il est spirituel, si. S'il fait ça, si c'est bien, il est spirituel. Non. La spiritualité, ce n'est pas par rapport à un don. La spiritualité, c'est par rapport au fruit. C'est pour ça qu'il ajoute cette fameuse parabole que même on connaît mal. Verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Monsieur Olé, l'autre jour, nous expliquait, quand il enseigne aux hommes l'importance de l'herméneutique, c'est-à-dire bien comprendre la parole de Dieu. Nous, on enseigne aux enfants que le roc, c'est Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On a plein de... Mais c'est pas vrai. Ce texte nous dit que c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Est-ce que vous faites la différence ? On le relit ? Quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous, on chante plein de petits cœurs là sur Jésus qui est le roc, mais c'est pas vrai. On bâtit sur le roc quand on pratique ce que Jésus nous dit. C'est pour ça que Jésus dit souvent, mais que celui qui a des oreilles entende. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais le roc, vous avez vu, c'est j'entends la parole et je la mets en pratique. C'est pas Jésus. C'est celui qui entend la parole de Jésus et qui la met en pratique. Vous me suivez, mes frères et sœurs ? Hein ? C'est sérieux. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur l'eau. Il entend les paroles. Il l'entend. Il va à l'église. Pour les entendre, il va à l'église. C'est pour ça que je vous dis qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés, voyez, par rapport à leurs dons. Ils s'imaginaient que parce qu'ils avaient des dons, Dieu les bénissait. Ils s'imaginaient parce qu'ils allaient à l'église et qu'ils prenaient le pain et le vin, ils étaient en communion avec Dieu. Mais la question que nous devons nous poser ce soir, c'est pas est-ce que parce que je vais à l'église, je suis pieux, est-ce que je mets en pratique ce que le Seigneur me demande? C'est ça la piété. La vraie piété, c'est ça. Et c'est pour ça que les apôtres, mais il te faut nous expliquer cette parabole. Il faut que l'on comprenne. Dans le dernier texte où Jésus, d'ailleurs vous qui commettez l'iniquité, il reprend la même expression, c'est dans Luc. Ça, on le verra une autre fois, parce que c'est un autre contexte. Mais dans Luc, au chapitre 13, Jésus va également revenir. Mais ce n'est pas l'iniquité là, même s'il en parle. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Puisque c'est le dernier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, dans Luc 13. Alors à partir du verset 25, il y a une parole de Jésus, c'est une prophétie, c'est pas un enseignement ça, c'est une prophétie. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Voyez, ouvriers d'iniquité, ce sont des chrétiens qui n'ont pas compris que quand on est sauvé, on ne marche pas dans l'iniquité, on marche dans la piété. Et ce sont des choses sévères, ce sont des choses sérieuses. Un petit peu plus loin, si vous allez dans 2 Timothée au chapitre 2, on le voit également. Je pense très souvent à ce verset, très souvent. Quand j'allume la télé, quand j'allume mon ordi, je peux vous dire qu'il y a 3 ou 4 versets qui viennent de suite dans mon cœur. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Vous le savez qu'il connaît le Seigneur. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de l'iniquité. J'aime ce verset quand il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Un homme qui prononce le nom du Seigneur, quand on a le nom de Jésus dans la bouche, non pas à l'église et non pas quand on chante, mais peut-être tout le long de la journée, nous qui aimons Jésus, nous qui avons été sauvés par grâce, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est quelque chose d'absolument sérieux. Un chrétien, il ne badine pas avec le péché. Parce que Jésus sauve, parce que Jésus bénit, parce que Jésus pardonne tout, certains se sont autorisés à pratiquer le péché. Je ne dis pas que nous ne péchons pas, mais il faut bien faire la différence entre un péché involontaire que l'on pratique, que l'on commet, hélas, et puis le péché dans lequel on vit, dans lequel on s'autorise à vivre. Le Seigneur, il est bon, il me pardonnera dimanche à la Sainte-Seine. Voilà, la Bible parle de ceux qui pratiquent la justice et de celui qui pratique le péché. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu, dit la parole de Dieu. On vit dans un monde inique. Notre monde est inique. D'ailleurs, c'est écrit. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidit. L'iniquité, elle ne va pas faire en diminuant. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent que les choses vont s'arranger. Écoutez, moi, quand je lis la Bible, je vois que les choses vont empirer. Est-ce que vous avez la même Bible? Est-ce qu'avant à l'enlèvement de l'Église, les choses vont s'arranger sur la terre? Mais non, il faut dire les choses comme elles sont. Les choses vont empirer. C'est pour ça que c'est important d'être gardé par le Seigneur. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre, il part des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont inspirés par l'iniquité. Combien? Moi, j'apprends de temps en temps que tel chrétien s'est fait piéger par des sites pornographiques. Moi, ça me désole, ça. Et voilà. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien sûr que nous sommes conscients de nos péchés. Combien je pensais à David qui disait « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Tu mets devant toi nos iniquités. » David dira « Ma force s'épuise à cause de mon iniquité. Le péché, il détruit. Le péché, il ne libère pas. Le péché, il ne fait pas du bien. Il y a des gens qui s'imaginent, oh, moi je m'éclate. Je me rappelle une dame un jour qui était venue me voir dans mon bureau. Elle venait me voir, elle voulait parler. C'était une call girl, en plus. Elle est venue me trouver. Elle commence. Alors elle était venue deux ou trois fois, elle était intéressée. Puis elle me dit, elle voulait faire le point. Elle me dit, moi il faut que je vous voie. Moi l'évangile m'étouffe. Alors, je dis, moi c'est pas l'évangile qui m'étouffe. Moi je crois que c'est le péché qui vous étouffe. Mais voyez, elle voulait rester dans son péché. Et j'ai dit, l'évangile n'étouffe pas. L'évangile, il délivre l'évangile. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et elle, bien sûr que je ne l'ai plus revue. Je ne l'ai plus revue. Mais mes frères, l'évangile, il libère. Ce soir, le Seigneur, il est là pour nous délivrer. Même si nous sommes conscients que les iniquités nous éloignent de Dieu, que le comportement du chrétien qui vit dans l'iniquité le perdra. Il faut le dire, que celui qui a des oreilles entende. Mais, béni soit le Seigneur. Dieu pardonne l'iniquité. Mon âme bénit l'Éternel qui n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes mes iniquités. Il a été brisé, dit la Bible, pour nos iniquités, le Seigneur. Et ce soir, je ne sais pas, peut-être il y a des nouveaux qui découvrent l'Évangile. L'iniquité vous perdra. Le salaire du péché, c'est la mort. Les comportements iniques, on le voit. Jésus le dit, c'est là qu'il y aura des pleurs. Pour les chrétiens qui ont un comportement scandaleux, qui sont un mauvais témoignage, et pour les chrétiens qui choisissent de vivre dans l'iniquité au nom du salut ou de la sécurité éternelle. Non, la sécurité éternelle, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris le baptême, que j'ai accepté Jésus comme sauveur, je ne peux plus me perdre. Ce n'est pas vrai. La preuve, écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Alors, on va terminer avec un texte dans Michée. Un merveilleux texte qui encourageront ce soir ceux qui veulent la victoire, ceux qui veulent être délivrés. Oui, il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour ça que Jésus a été crucifié, pour délivrer les iniques, les pécheurs, mais les chrétiens qui se sont fait piéger. Et peut-être que ce soir il y en a un qui est là, qui vit dans l'iniquité, vous ne vous en souciez pas, vous dites c'est pas grave. Moi je vous dis c'est très grave. Michée chapitre 7, verset 18. Regardez ces trois versets. Comment ils sont merveilleux. Quel Dieu, vous y êtes ? Je sais que c'est dans les petits prophètes, hein, cherchez-le. Il faut lire ces textes, ils sont merveilleux. Quelle grâce d'avoir des textes comme celui-ci dans la Bible. Il y en a des textes qui nous montrent que Dieu pardonne. Michée, chapitre 7, verset 18. Vous y êtes ? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Quel Dieu est semblable à toi ? Oui, Dieu pardonne l'iniquité. Il y en a un qui dit Alléluia. Est-ce que Dieu pardonne toutes les iniquités? Quel Dieu est capable de faire? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais quand même, si je vis dans le péché, que bon, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, mais si je ne le règle pas, je ne serai pas prêt. Et il y a des gens qui jouent avec le péché. Tous ces gens, les vierges folles, le serviteur hypocrite, le gars qui enfouit le talent, tous les textes, où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, s'adresse à des chrétiens qui ont été légers avec Dieu. Alors c'est vrai que nous avons un Dieu qui pardonne. Il pardonne tout. Il pardonne toutes les iniquités. J'ai relevé des textes, on n'a pas le temps de les lire maintenant, mais il faut se repentir. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne tout que tout est réglé. Quand Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur », qu'est-ce que ça voulait dire ? Que du côté de Dieu, le pardon était accompli. Dieu avait choisi, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ au calvaire, de pardonner les hommes. Mais ce n'est pas parce que ces hommes ont entendu « Père, pardonne-leur » qu'ils étaient pardonnés. Il fallait qu'à leur tour, ils demandent pardon à Dieu. On est pardonné quand on demande pardon. On est, On est libéré de l'iniquité quand on s'en repent. C'est pour ça que la Bible dit « repentez-vous ». C'est pour ça que la Bible dit « ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux ». Il faut se ressaisir. Le fils prodigue, il était mort. Son père a dit « ton fils était mort, mais il est revenu à la vie ». Il était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à lui-même, il a réfléchi, il a dit « oh, mais j'ai péché contre le ciel, contre mon père, j'ai péché, je me lèverai et j'irai le voir et on va régler cette affaire ». Oui, Dieu pardonne l'iniquité. Quel Dieu grand nous avons. Mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous n'obtiendrez pas la victoire. Il y a des gens qui ne comprennent pas, je fais que rechuter. Parce qu'ils ne se repentent pas, ils regrettent, parce qu'ils savent que ce n'est pas bien. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, j'ai demandé pardon, je me suis repenti. Puis trois jours après, ils recommencent. Mais c'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils ont regretté. Le regret, ça ne change rien. Jésus n'a pas dit, quand tu commettras un péché, j'espère que tu vas regretter. Non, il dit, repens-toi. Convertis-toi. Et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut s'humilier. Et même si on n'a pas trop bien chanté le texte de 2 Chroniques, ça ne fait rien. C'est un merveilleux texte qui nous dit que si on s'humilie, si on cherche sa face et si on se détourne de nos mauvaises voies, le Seigneur nous guérira. Oui, il faut être comme le fils prodigue, revenir se jeter dans ses bras, comme la brebis perdue, se laisser porter sur ses épaules. Parce que c'est joli tout ça, c'est très poétique. Le berger qui porte la brebis sur les épaules. Oh. Mais est-ce que je laisse le Seigneur me porter? Parce que ça veut dire que je mets ma vie entre ses mains. Et j'accepte son programme, son parcours. J'accepte le chemin par lequel il va me faire passer. C'est bien joli de dire le berger, il va la rencontrer. Oui, mais la brebis, si elle ne se laisse pas porter, elle restera dans ses épines. Alors il faut que nous recevions ce soir cette grâce de dire Seigneur, moi je veux pas, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de connaître les pleurs et les grincements des dents. Moi ce programme-là, voyez, ça m'intéressait pas. Je sais pas comment Dieu me reprendra sur la terre, ça c'est bon, c'est pas important que je meure demain ou que je meure dans 20 ans, moi ça m'est égal, mais vraiment ça m'est égal, Dieu m'entend. Mais j'ai pas envie d'entendre, retire-toi de moi, je te connais pas. Moi les pleurs et les grincements des dents, c'est un truc, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est entre bon et fidèle serviteur. Ça vous intéresse, ce programme? Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est là. Alors, on ferme les yeux. On est sérieux. On est sous le regard de Dieu. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez été léger. Peut-être que vous vous imaginez que parce que vous lisez la Bible, parce que vous priez, parce que vous allez à l'église, vous êtes sauvé. Est-ce que vous vivez une véritable piété? Nous avons lu, et c'est vrai, que tant que la porte est ouverte, Dieu ne se lasse pas de pardonner toutes les iniquités. Vous avez été scandaleux, vous avez un témoignage qui scandalise peut-être les gens dans votre famille ou dans votre entreprise ou dans votre église, j'en sais rien, si vous veniez d'une autre église. Repentez-vous. Il y a peut-être quelqu'un qui dit ce soir, moi je suis pas au clair avec Dieu. Je regarde des saletés à la télé. Et oui, c'est ça l'iniquité. Je scandalise peut-être mon conjoint en regardant des films de violence. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'il a surpris une chrétienne en train de regarder un film de violence à la télévision. Ça aurait été un jeune chrétien, ça aurait pu le scandaliser. Ce soir, nous avons un Dieu qui pardonne. Non seulement il pardonne, mais comment il a pardonné et comment il a payé. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, quel Dieu est semblable à notre Dieu qui pardonne l'iniquité, qui oublie tout, que son nom soit béni.